Bien. Je vous remercie d'être là. Donc, je vous avais quitté la dernière session au moment où d'Israeli, l'abbé Schoenfeld, avait pris la décision d'acheter les actions du Khedive Ismaïl, enfin de l'Égypte, dans la compagnie universelle du canal. Je vous avais expliqué que ça n'avait pas de réalité économique réelle dans la mesure où les actions étaient déjà gagées. C'était plus une volonté symbolique de la part de la Grande-Bretagne de montrer l'importance que l'Égypte avait pour elle dans un contexte ou dans ce troisième quart du XIXe siècle, l'obsession britannique est de plus en plus renforcée, c'est-à-dire la fameuse descente russe sur l'Asie qui menace la route des Indes et qui, au-delà de menacer la route des Indes, menace directement le Raj, l'empire britannique de l'Inde. Alors évidemment, il y a des discussions chez les stratèges militaires puisque en 1875, nous trouvons, vous avez des transformations continues de la technologie militaire. La guerre de sécession américaine et la guerre franco-prussienne de 1870-1871 a montré l'importance dans la guerre moderne des chemins de fer. Or, il n'y a pas de chemin de fer qui permette à la Russie d'arriver en Inde. Donc, malgré tout, il n'y a pas trop de danger. Mais il y a vraiment une obsession de la descente russe. D'autant plus que la Russie avait profité de la guerre franco-prussienne pour mettre fin à la neutralisation de la mer Noire, qui était comprise dans le traité de Paris de 1856. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les stratèges britanniques comprennent que la Grande-Bretagne, si elle dispose de loin de la première flotte de guerre du monde, a un dispositif territorial extrêmement vulnérable qui comprend des failles béantes. Ne serait-ce que au moment où nous nous situons, maintenant, toutes les marines de guerre sont des marines à vapeur. Donc, la marine à vapeur postule le dépôt de charbon. Donc, pour que l'Angleterre puisse toujours régner sur les flots, il faut que l'Angleterre dispose de dépôts de charbon un peu partout dans le monde et que ces dépôts de charbon soient militairement protégés. Donc, dans les années 1870, la Grande-Bretagne entreprend, en particulier à l'époque du gouvernement conservateur de l'Israël, de renforcer son système militaire. Et en fait, l'ensemble des possessions britanniques est en train de constituer un empire. C'est en effet dans la décennie 1870 que l'expression « empire » pour l'empire britannique entre dans l'usage courant et bientôt, dans les années 1890, ceux qui sont partisans du renforcement de l'empire vont être appelés les impérialistes. Donc, dans cette phase-là, alors, ne faites pas un contresens. Hein. Les impérialistes au sens britannique du terme sont d'abord ceux qui veulent consolider l'empire, pas nécessairement ceux qui veulent l'étendre. Mais en tout cas, ils ont maintenant la conscience d'empire. On n'est plus dans le libéralisme de la première moitié du XIXe siècle, ce qu'on appelle, les historiens appellent l'impérialisme de libre-échange, où il n'y a pas de conscience d'empire dans l'impérialisme du libre-échange, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est un marché mondial où simplement la Grande-Bretagne est la force de police C'est ça l'impérialisme du libre-échange. Tandis que là, maintenant, c'est une volonté de constituer des territoires. Il faut rappeler, en 1876, je l'ai déjà dit, Disraeli fait proclamer la reine Victoria impératrice de l'Inde. Le grand adversaire de Disraeli, Gladstone, lui, reste un libéral selon le discours habituel du libéralisme économique, donc hostile à l'expansion territoriale, mais non pas à l'extension du commerce. C'est ça l'ambiguïté. Et ce qui pesera lourd pour l'avenir, mais ça, les historiens ont été incapables de déterminer l'importance de ce facteur, c'est que Gladstone a investi une partie considérable de son patrimoine dans les fonds égyptiens. Et donc, quand il sera au pouvoir, cela va peser, mais on ne sait pas dans quelle mesure cela va peser. Alors, en dépit de la vente de ses actions, le Khedive Ismail continue encore sa politique d'expansion territoriale en Afrique et il se heurte directement à l'Empire d'Éthiopie. Il pense que l'Éthiopie ne lui résistera pas. Après tout, en 1868, les Éthiopiens ayant fait quelques méchancetés aux Britanniques, les Britanniques avaient lancé une expédition qui avait dévasté l'Éthiopie pour montrer qui est le maître. Donc, avec sa belle armée moderne, Ismaël pense qu'il va avoir la même chose. Mais en fait, le roi Johannes IV d'Éthiopie lance une guerre sainte chrétienne contre l'envahisseur musulman et inflige une sévère défaite à l'armée égyptienne à Gundet le 16 novembre 1875. L'année suivante, l'armée égyptienne reprend l'offensive et elle est d'une seule fois battue complètement à Goura par les troupes éthiopiennes. Et les Égyptiens sont contraints de se replier sur des positions défensives. C'est un facteur important. L'Éthiopie est la seule puissance africaine à avoir réussi à bloquer le colonialisme d'abord de l'Égypte et puis ensuite un peu plus tard de l'Italie. Mais à la fois parce que les Éthiopiens ont des bons généraux et des bons soldats, mais aussi parce qu'ils se sont procurés par le trafic d'armes des armes excellentes et qu'ils savent s'en servir. Les défaites égyptiennes sont d'abord dues à la mauvaise qualité du commandement, mélange d'occidentaux et de musulmans souvent en querelle. Je vous rappelle par exemple ces officiers américains issus de la guerre de sécession. Les difficultés internes de l'armée égyptienne expliquent aussi les défaites. Donc, crise financière plus défaite militaire, l'un étant relié à l'autre d'ailleurs, affaiblissent le pouvoir du Khedive. Et le Khedive, il essaye de faire flèche de tout bois pour essayer de reconstituer ses finances, ce qui inquiète la classe dirigeante qui adopte le discours de la sécurité des biens et des personnes, parce que sa première inquiétude à cette classe dirigeante turco-égyptienne ou turco-circassienne, c'est justement de ne pas se faire confisquer ses biens par un khedive aux abois du point de vue financier. Alors on est dans ces années 1870, un moment tout à fait ambigu de l'histoire de l'Égypte. On est au moment de la seconde, voire maintenant de la troisième génération des gens de la maison de Mehmet Ali, qui sont maintenant des grands propriétaires terriens. Ismaël et ses prédécesseurs, évidemment, ont tout fait pour interdire, enfin gêner au maximum les membres de la maison de prendre d'autres carrières dans l'Empire ottoman, puisque au départ, c'était la même classe dirigeante dans l'Empire ottoman et en Égypte. Donc, ces turco-circassiens sont maintenant installés en Égypte, ils sont nés en Égypte, leurs parents sont souvent nés en Égypte. On a donc une situation ambiguë dans laquelle ils sont d'Égypte, en quelque sorte. On peut parler d'une égyptianisation par le haut. Ils méprisent les Égyptiens de souche, les Fallahs, mais ils se sentent de plus en plus égyptiens et de moins en moins ottomans. Et de l'autre côté, la constitution de l'État moderne égyptien, sous la dynastie de Mohammed Ali, a multiplié les postes de fonctionnaires dans l'administration. C'est la montée en puissance de la grande notabilité rurale, les fameux Romda, les Sher el-Beled dont je vous ai parlé la dernière fois, Et eux aussi se sentent d'Égypte. Et là, on a donc ce que j'appellerais une égyptianisation par le bas. Et il y a quelque part un début de convergence vers un sentiment national égyptien qui groupe à la fois cette égyptianisation par le haut de la classe des turco-circassiens, des awats, des gens de bien, et d'égyptianisation par le bas, qui est la montée de la notabilité égyptienne dans les circuits pouvoir. À la fois des grands notables égyptiens, puisque maintenant vous avez des Égyptiens de souche dans l'armée, dans les postes de gouverneur de province, etc., mais aussi toute la classe des petits fonctionnaires, ce que, un peu plus tard, le mot commence à être utilisé maintenant, mais ne prendra vraiment son extension qu'au XXe siècle, ce qu'on appellera en Égypte l'Effendiya, c'est-à-dire la classe des Effendis. Effendi était jadis un titre prestigieux dans l'Empire ottoman. C'était des fonctionnaires des finances d'un grade élevé. Mais dans cette langue de la fin du XIXe siècle, l'Effendi est celui qui a fait des études. C'est-à-dire, en gros, celui qui sait lire et écrire. Ce qui est encore très faible comme proportion dans la population égyptienne. Donc on a bien une élite en formation, une élite égyptienne d'en haut, et l'Effendiya en voie de formation. Bon, alors si on fait un panorama ultra rapide de l'histoire de l'Égypte jusqu'à 1952, l'histoire de l'Égypte, elle est liée à la fois à la confrontation et ensuite à la fusion entre l'Effendiya et les notables. Donc, on voit là les traits qui vont caractériser pour trois quarts de siècle, avant la révolution de 1952, l'Égypte. Il y a à la fois collaboration et compétition entre l'élite et l'Effendiya, mais aussi il y a des discours communs comme une identité égyptienne commune, un projet national ou étatique égyptien, parce que tous les deux sont liés à l'appareil d'État égyptien. Et puis, il y a aussi un sentiment, évidemment, d'appartenance commune à l'islam, qui peut aussi s'exprimer par l'adoption des idées réformistes que je vous ai décrites les fois précédentes. On se trouve aussi devant le problème dynastique. Ismaïl a obtenu de la porte du sultan Abdelaziz la primogéniture. Donc il a mis de côté son oncle, le prince Alim, et on ne dit pas l'émir, le prince, c'est un descendant direct de Mehmet Ali, mais il a le titre européen de prince. C'est le seul de ma connaissance, d'ailleurs, on l'appelle le prince. Donc le prince Alim, qui ne s'est pas laissé faire, évidemment, et il a essayé de résister, le prince Salim, en s'appuyant sur la franc-maçonnerie égyptienne. Il a été l'organisateur du Grand Orient d'Égypte. Donc, ça l'a amené à être exilé par Ismaïl, qui, au passage, lui a confisqué la moitié de ses biens. Et donc, Alim est à Constantinople et tout le monde, enfin, ça devient une obsession dynastique, la remise en cause éventuelle de la succession dynastique en Égypte, la primogéniture, par le prince Alim, qui est une espèce de candidat permanent. Et ce prince est aussi celui qui finance, enfin, il est un de ceux qui financent les mouvements réformistes dans l'Empire ottoman. Il semble, par exemple, que le cercle d'Afranid Abdou en Égypte dans les années 1870 ait été en partie financé par le prince Ali. Et on a donc ces caractéristiques des années 1870 où les idées libérales ont un impact considérable puisqu'on les utilise dans la compétition politique et dynastique. Mais vous ne pouvez pas avoir d'action politique sans financement. Et vous avez une interaction entre les promoteurs des idées réformistes et les groupes de pouvoir, les personnalités au pouvoir, ce que j'appellerais les grands, à défaut d'autre chose, de l'Empire ottoman, les grands vizirs, les dynastes comme le prince Alim, etc., qui financent ces activités réformistes dans le cadre de la compétition au pouvoir. Parce que maintenant, ce qui compte aussi, c'est d'acquérir les faveurs de ce qu'on peut appeler l'opinion publique musulmane, même si certains des idéologues réformistes ne sont pas musulmans eux-mêmes, soit juifs, soit chrétiens. Alors, on va retrouver ça dans l'Empire ottoman. Donc là, vous avez le tableau dynastique. Oui, passer le prince Alim ici. J'ai perdu. Voilà, c'est celui qui est le dernier à Londres. Donc, c'est le dernier des fils de Mehmet Ali, de Mohammad Ali. Tandis que la succession s'est faite dans la lignée d'Ibrahim Pacha. Alors, nous allons passer aux affaires balkaniques. Pour les Européens de l'Ouest, il est évident que les Balkans sont une région essentiellement chrétienne et que la présence musulmane constitue une sorte d'anomalie historique. Ce que point Glasdon dira un peu plus tard, quand on aura parlé, l'islam en Europe est un solécisme politique. Donc une faute de grammaire. Mais toujours est-il qu'en réalité, à cette époque-là, si on exclut Constantinople et sa banlieue, on aurait dans les Balkans 4 200 000 musulmans pour 6 800 000 chrétiens. C'est-à-dire que les musulmans seraient de l'ordre de 35 à 40 de la population balkanique. Alors là, cette carte essaye de vous donner une distribution des différents groupes confessionnels dans les Balkans. Elle vaut ce qu'elle vaut parce qu'à chaque fois qu'on essaye de faire des cartes de distribution confessionnelle, c'est toujours extrêmement aléatoire, que ce soit pour l'Irak d'aujourd'hui, le Liban d'aujourd'hui ou pour les Balkans du 19e siècle. Et puis surtout, cette carte a le tort de vous dire qu'il y a des orthodoxes bulgares, des orthodoxes serbes et des orthodoxes grecs. dans la mesure où une bonne partie des paysans ne savent pas s'ils appartiennent à l'un des trois groupes, auquel des trois groupes ils appartiennent. Ils vont devenir soit grecs, soit serbes, soit bulgares, en fonction du peuple ou de l'instituteur qui va les éduquer dans la génération suivante. Mais bon, ça c'est... Sans parler des problèmes des Macédoniens, dont nous aurons l'occasion de reparler, puisque ce problème n'est pas encore réglé aujourd'hui d'ailleurs, de savoir qui sont les Macédoniens dans cette salade. Ce n'est pas une plaisanterie, hein, la Macédoine de légumes est une dérivée de la Macédoine de peuple. Les problèmes vont naître, évidemment, dans le coin le plus écarté, en Bosnie et Herzégovine. Au départ, c'est les produits de la conquête ottomane elle-même qui ont fait que la paysannerie est majoritairement slave, chrétienne, tandis que les propriétaires fonciers sont majoritairement musulmans, compte tenu que les dix musulmans en question, en Bosnie, sont des slaves eux-mêmes, convertis à l'islam. Les Européens poussent les Ottomans à faire de nouvelles réformes pour mettre fin aux tensions sociales, politiques et aux violences entre paysans chrétiens et maîtres musulmans en Bosnie-Herzégovine. L'alliance dite des trois empereurs, la Russie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, est le moteur de l'action européenne, la France étant toujours en période dite de recueillement après la défaite de 1871. Donc les Européens poussent à accorder une pleine liberté religieuse aux chrétiens bosniaques, mais aussi une réforme fiscale qui mettrait fin au fermage des impôts et qui conduirait à ce que l'essentiel des revenus fiscaux de la province soit consommé sur place, ce qui veut dire en langage clair de créer une province autonome de Bosnie-Herzégovine. Et en parallèle, on procéderait à une réforme agraire par laquelle les propriétaires musulmans céderaient à leurs paysans chrétiens leurs terres et on établirait un conseil de notables à parité entre chrétiens et musulmans. C'est assez amusant parce qu'on voit que ce qui est proposé par les trois empereurs est assez analogue à la politique britannique en Irlande dans la même période. Réforme agraire pour mettre fin à la domination des propriétaires protestants sur les paysans catholiques, établissement de conseils où toutes les catégories de la population puissent s'exprimer, etc. C'est-à-dire qu'on traite la question bosniaque comme on traite la question irlandaise. Le parallèle est assez intéressant à étudier, d'autant plus que les Européens font la morale aux musulmans, alors que l'affaire irlandaise est une affaire entre chrétiens elle-même. Alors, la porte essaye de gagner du temps, mais ça introduit une tension croissante dans l'ensemble des Balkans. Et on va avoir deux mèches à l'explosion. La première mèche, c'est une banale affaire de conversion à Salonique. Vous savez, dans les affaires de communautés religieuses, le point essentiel, c'est la question des femmes. Ce qui fait la structure d'une communauté, c'est qu'on refuse d'échanger les femmes entre les communautés. Et donc, au départ de l'anecdote, nous avons une jeune femme bulgare qui a décidé de se convertir à l'islam, probablement à la suite d'une affaire de cœur avec un jeune musulman, Roméo et Juliette. Les chrétiens locaux tentent de s'y opposer en affirmant que c'est en fait une conversion forcée, et les chrétiens kidnappent la jeune femme. Le 8 mai 1876, les musulmans manifestent en exigeant qu'on leur rende la jeune femme et accusent les consuls étrangers d'être impliqués dans la détention de l'intéressée. Les autorités tentent de calmer les émeutiers, mais les consuls de France et d'Allemagne interviennent, sûrs de leur humanité européenne. Ils sont massacrés par la foule, tandis que la jeune fille est rendue aux musulmans. Le meurtre de deux consuls européens, c'est le sacrilège total dans le système de domination européenne sur l'ensemble de l'Empire ottoman. Donc immédiatement, vous avez les marines de guerre européennes qui affluent vers Salonique, tandis que les Ottomans promettent une commission d'enquête. Donc les Ottomans font ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on arrête ce qu'on appelait dans le film Casablanca « usual suspects ». Donc on arrête un certain nombre de personnes et on les exécute et on paye de lourdes indemnités aux familles des consuls. Donc l'événement est lié à l'honneur des communautés, et l'honneur des communautés est représenté par les femmes. La seconde affaire, beaucoup plus importante, c'est l'action des nationalistes bulgares. Ils lancent la rumeur que l'armée russe est entrée dans les Balkans et que les musulmans sont décidés à massacrer les chrétiens avant l'arrivée des Russes. À l'instigation donc de ces nationalistes, quelques villages chrétiens se soulèvent et massacrent les villages musulmans locaux. Ce sont des pomaks qui sont massacrés, c'est-à-dire des musulmans bulgares. Ils sont eux-mêmes bulgarophones, ces musulmans. Les musulmans bulgares prennent les armes à la main et se lancent contre les chrétiens et lancent un contre-massacre avec une série d'exactions. Alors là, vous avez une peinture d'époque bulgare montrant les atrocités commises par les Turcs, entre guillemets, puisqu'il s'agit la plupart du temps de pomaks. Et vous voyez aussi que dans l'imaginaire de l'époque, c'est d'abord des femmes dont il s'agit. Cette peinture me fait irrésistiblement penser à une peinture française assez connue de l'entrée des Gaulois à Rome, qui est à peu près de la même époque, et qui est presque dans le même style. Il faudrait les comparer. En tout cas, les violences sont d'abord des violences entre groupes paysans, mais pour la presse européenne, ce sont les irréguliers ottomans qui sont responsables des violences, les fameux Beshi Bouzouk, dont vous connaissez tous l'existence grâce au capitaine Haddock. Au début de juin 1876, l'arrivée des troupes régulières ottomanes met fin au mouvement bulgare et les tribunaux ottomans vont se montrer relativement cléments envers les insurgés. Il y aura peu de condamnations à mort, mais cette affaire a fait plusieurs milliers de victimes et surtout va devenir une affaire européenne parce que la presse européenne se solidarise avec les chrétiens des Balkans. Donc, les articles vont se multiplier durant l'été. Et surtout, ça va être le pamphlet le plus célèbre du chef de l'opposition libérale en Grande-Bretagne, de Gladstone, Les horreurs bulgares et la question de l'Orient, qui est une attaque en règle contre l'Empire ottoman en général et contre Disraeli en particulier, puisque Disraeli est considéré comme le défenseur de l'Empire ottoman. Et Disraeli est évidemment premier ministre à cette époque. Plus de 200 000 exemplaires du pamphlet de Gladstone sont vendus en quelques semaines en Grande-Bretagne. Il suscite donc un mouvement de masse dans l'opinion publique britannique demandant la disparition des Ottomans des Balkans parce qu'ils maltraitent les chrétiens. Mais néanmoins, les libéraux sont quand même assez gênés parce que c'est beau de se solidariser avec les chrétiens balkaniques, mais ça risque d'apparaître comme soutenir l'autocratie russe dans sa progression dans les Balkans. La menace pour la Grande-Bretagne, y compris pour les libéraux, c'est ce qu'on appelle dans la presse de l'époque le panslavisme, l'union de tous les peuples slaves sous la direction du tsar de toutes les Russies. D'où le fait que les libéraux britanniques vont se replier sur la défense des Grecs, qui ont le mérite de ne pas être slaves, tout en étant chrétiens balkaniques. Même chose du côté français. Les républicains sont en général très favorables aux Grecs. Mais de toute façon, la France est en retrait dans toute cette affaire, puisque d'abord on est dans la politique du recueillement, et ensuite parce que la France est en pleine crise politique intérieure. C'est le moment entre l'élaboration de la Constitution en 1875 l'arrivée de la République des Républicains en 1878-1879. Donc, les Français sont d'abord concentrés sur leurs affaires politiques elles-mêmes. Alors, ce qui est extrêmement frappant, c'est que ces libéraux anglais ou ces républicains français semblent ignorer l'existence de plusieurs millions de musulmans dans les Balkans. Quant à Disraeli, il se trouve un peu paralysé parce que lui, il considère que l'Empire ottoman est vital pour l'Empire britannique puisque c'est la barrière contre la Russie. Alors, si je vous dirais en caractérisant la situation qu'on a une urgence humanitaire suite à des massacres de masse, on a des libéraux que l'on définit traditionnellement comme hostile à une intervention militaire, qui appelle une intervention. Et vous avez des conservateurs qu'on considère toujours comme des impérialistes voulant conquérir le maximum de territoire, qui, eux, sont hostiles à une action militaire au nom des impératifs de la géopolitique. Ben, vous trouverez que cette crise d'Orient en formation ressemble à beaucoup d'autres crises d'Orient, y compris les plus actuels. Donc, la question est de savoir quoi faire. Alors, vous avez cette caricature britannique. Vous avez la Turquie qui s'adresse à la Grande-Bretagne en lui disant « Vous devriez être notre ami ». Et la Britannia, donc, répond « Comment être votre ami ? Pas avec des mains de cette couleur, c'est-à-dire couvertes de sang. » à cause des atrocités bulgares, il ne peut être question d'une nouvelle guerre de Crimée. De plus, la France est hors jeu. Et la Grande-Bretagne n'a pas les moyens d'intervenir toute seule. Parce que dans la scène politique française, il faut voir que vous avez paradoxalement, on aura l'occasion l'année prochaine de le réétudier en détail, ou peut-être, oui, l'année prochaine de toute façon, puisque, c'est parce que après 1870, les milieux républicains est divisé en deux. Vous avez les partisans absolus de la revanche, c'est-à-dire de la guerre contre l'Allemagne. Donc ces revanchards considèrent que la seule façon de pouvoir faire la guerre à l'Allemagne, c'est l'alliance russe. Donc les revanchards veulent l'alliance russe, donc sont hostiles à l'Empire ottoman et favorables à la Russie, chez les républicains. Et l'autre groupe des républicains considère que la France doit conserver son statut de grande puissance, donc elle doit intervenir au nom de ses intérêts propres, mais dans ce cas-là, elle ne cherche pas l'alliance russe. Hein, et il y a donc division interne dans le milieu républicain. Mais de toute façon, ils ne sont pas encore au pouvoir au moment où nous parlons, mais ça discute ferme sur ce problème. Le 13 mai 1876 est envoyé un mémorandum dit de Berlin des trois empereurs, Allemagne, Autriche, Hongrie et Russie, exigeant un armistice dans les combats et un contrôle international chargé d'appliquer les réformes. En marge, les diplomates russes et autrichiens discutent d'un partage éventuel des Balkans, la Bosnie-Herzégovine passant à l'Autriche et la Bessarabie passant à la Russie. La Bessarabie, elle est là. La Bessarabie. Donc là, pour ceux qui connaissent l'histoire balkanique au XXe siècle, on est en plein dedans. Et on est aussi à la genèse des événements qui conduiront à l'attentat de Sarajevo en juin 1914. L'Angleterre rejette le mémorandum et fait dans ce cas-là ce que fait toujours la Grande-Bretagne. Elle envoie une flotte au large des Dardanelles pour marquer qu'il ne faut pas toucher aux Ottomans. Mais, et d'accord, pour qu'on augmente les autonomies des provinces chrétiennes de l'Empire ottoman. Quant à la France, elle propose une conférence internationale pour régler le problème et propose que ce soit à Paris, puisque le précédent traité était le traité de Paris. Le double effet des événements de Bulgarie et de Salonique provoque d'importantes manifestations de musulmans à Constantinople, les musulmans appelant à la protection des coreligionnaires des Balkans et à la fin des ingérences étrangères. C'est dans ce contexte que les libéraux, notamment les réformateurs, dont Midad Pacha, organisent un coup d'État le 30 mai 1876, et dépose le sultan Abdelaziz et le remplace par Mourad V, le 30 mai 1876. L'affaire est bien reçue dans la capitale. La population y voit le rétablissement de l'ordre, la résistance aux empiétements de l'Europe et la proclamation d'une constitution qui permettrait d'établir un régime de consultation des populations. La mort d'Abdelaziz le 4 juin, officiellement due à un suicide, jette quand même un certain trouble. Mourad V montre rapidement des signes d'instabilité mentale, alors que le 30 juin, la Serbie et le Monténégro, soutenus ouvertement par la Russie, qui envoient des volontaires, déclare la guerre à l'Empire ottoman. Alors que les puissances européennes appellent à un arrêt des hostilités, le prince héritier ottoman, le Abdul Hamid, frère de Mourad V, négocie avec Medhat Pacha, le leader des libéraux, vous rappelez, l'ancien gouverneur d'Irak, et on obtient la déposition de Mourad V pour instabilité mentale le 31 août, et Abdul Hamid devient sultan sous le titre de Abdul Hamid II. Donc deux successions, coup sur coup. Abdul Hamid est alors un inconnu. On sait qu'il a reçu une assez médiocre éducation, mais que contrairement aux autres membres de la famille impériale, il s'est montré un excellent gestionnaire, prudent et économe de son patrimoine. On ne connaît pas ses orientations politiques. Il déploie rapidement de grands talents stratégiques en installant des hommes à lui dans les postes clés de l'armée et de l'administration. En tout cas, l'armée ottomane contient les Monténégrins et enregistre un certain nombre de succès contre les Serbes, dont le territoire est envahi, au point que l'armée ottomane arrive à proximité de Belgrade. La Russie se doit d'intervenir pour éviter une défaite majeure. Le 31 octobre, un ultimatum est adressé au gouvernement ottoman. S'il n'y a pas armistice, la Russie entrera en guerre. Le gouvernement ottoman est obligé de céder, puis d'accepter une proposition britannique de réunion d'une conférence internationale à Constantinople pour régler la question des réformes balkaniques. Les libéraux ottomans se saisissent de la situation pour montrer que seule une constitution organisant la représentation politique de toutes les composantes de l'Empire mettrait fin aux ingérences européennes au nom des réformes. Le sultan cède et Medhat Pacha organise une commission chargée de rédiger la constitution. Les éléments conservateurs sont hostiles à une égalité complète entre musulmans et non-musulmans et voudraient conserver des pouvoirs étendus au sultan. Ce dernier en profite dans les derniers arbitrages, mais le 17 décembre 1876, Medhat Pacha est nommé grand vizir, et le 23 décembre, la constitution ottomane, qui entrera dans l'histoire comme étant la constitution de 1876, est proclamée. La loi fondamentale, donc là vous avez la photographie de la première page de la constitution ottomane, Kanun al-Asasi, je dirai en arabe, mais ensuite je ne sais pas parce que c'est du turc. Donc la loi fondamentale, Kanun al-Asasi. La loi fondamentale souligne d'abord l'indivisibilité de l'Empire ottoman et sa nature en tant que califat. Article 1er. L'Empire ottoman comprend les contrées et possessions actuelles et les provinces privilégiées. Il forme un tout indivisible dont aucune partie ne peut être jamais détachée par quelque motif que ce soit. Article 2. Constantinople est la capitale de l'Empire ottoman. Cette ville ne possède, à l'exclusion des autres villes de l'Empire, aucun privilège ni immunité qui lui soit propre. On sort tout ça de l'influence française. Article 3. La souveraineté ottomane, qui réunit dans la personne du souverain le califat suprême de l'islam, appartient à l'aîné des princes de la dynastie d'Osman, conformément aux règles établies à Bantiko, en turc dans le texte. Enfin, en latin dans le texte turc, exactement. Article 4. Sa Majesté le Sultan est à titre de calife suprême, le protecteur de la religion musulmane. Il est le souverain et le padishah de tous les Ottomans. Donc on lui conserve des pouvoirs étendus, sa personne est sacrée, il est juridiquement irresponsable, l'article 7 spécifie. Sa Majesté le Sultan compte au nombre de ses droits souverains les prérogatives suivantes. Il nomme et révoque les ministres, il confère les grades, les fonctions et les insignes de ses ordres, il donne l'investiture aux chefs des provinces privilégiées dans les formes déterminées par les privilèges qui leur ont été concédés, il fait frapper la monnaie, son nom est prononcé dans les mosquées pendant la prière publique, il conclut les traités avec les puissances, il déclare la guerre, il fait la paix. Il commande les armées de terre et de mer, il ordonne les mouvements militaires, il fait exécuter les dispositions de la charia, la loi islamique et des lois, il fait les règlements d'administration publique, il remet ou commue les peines prononcées par les tribunaux criminels, il convoque et proroge l'Assemblée, il dissout, s'il le juge nécessaire, la Chambre des députés, sauf à faire procéder à la réélection des députés. Le droit public reconnaît à tous les sujets de l'Empire la qualité d'Ottoman, quelle que soit la religion. La liberté individuelle de tous est garantie. L'islam est religion de l'État, mais l'État protège toutes les religions. L'égalité de tous devant la loi est reconnue. L'admission aux emplois publics a pour condition la connaissance du turc ottoman, langue officielle de l'État. Vous avez donc ensuite la description du fonctionnement d'un Sénat et d'une Chambre des députés, un Conseil d'État qui prépare les lois, et ensuite les lois ne sont validées que quand il y a eu la signature du sultan. Des sénateurs sont nommés à eux. Donc, en général, la Constitution de 1876 reconnaît des pouvoirs étendus au sultan, tout en établissant un état de droit. Autrement dit, pour être clair, l'Empire ottoman est beaucoup plus avancé en matière libérale que l'autocratie russe à la même époque, où il n'y a pas de constitution ni de chambre représentative dans l'Empire russe. La conférence, en même temps, a démarré le 23 décembre au moment de la proclamation de la Constitution. Immédiatement, les représentants ottomans disent que la conférence est sans objet, puisque la Constitution garantit le droit de tous les habitants des Balkans. Mais les Européens font la sourde oreille. Pour eux, la Constitution n'est qu'un instrument vide de sens destiné à abuser les puissances. Pour les Ottomans, au contraire, les Européens ne visent qu'une seule chose, c'est le partage des Balkans. C'est ce que Midhat Pacha explique à un diplomate français. Le grand vizir m'a expliqué qu'en réalité, la Russie voulait créer de petits États slaves qui, à l'exemple de la Serbie, s'émanciperaient peu à peu et finirait par se séparer de l'Empire. C'est un danger qu'il ne veut courir à aucun prix. Il a terminé en disant que dans cette crise suprême, il comptait sur les bons sentiments de la France. Je lui ai nettement répliqué que les cabinets étaient étroitement unis dans cette question et que si la Turquie s'abstinait, elle courait au-devant d'une rupture avec l'Europe entière. Les Ottomans rejettent tout contrôle européen sur l'administration des provinces balkaniques, au nom de la défense de l'intégrité de l'Empire, qui est indivisible. Et Midhat joue sur l'Union nationale face aux ingérences étrangères. Donc, on a un dialogue de sourds qui dure jusqu'au 20 janvier 1877, où les puissances retirent leurs ambassadeurs en titre de mécontentement. Quant à Abdul Hamid, il fait savoir aux Européens que l'intransigeance est due à son grand vizir, mais pas à lui. Donc il commence à prendre ses distances par rapport à Midhat Pacha. Et puis ensuite, assurer que les Européens ne soutiennent pas le grand vizir, belle œuvre classique, il le dépose le 5 février 1877. C'est la fin de la période des grands vizirs réformateurs des Tanzimat. Toujours habile manœuvrier, le sultan fait ensuite convoquer le parlement ottoman. Un règlement électoral provisoire établit que les députés seront élus par les membres des conseils administratifs, qui ont même été élus. La capitale votera par une procédure spéciale à 2 degrés, avec 5 députés musulmans pour 5 non-musulmans. L'Égypte, la Crète et le Liban, du fait de leur autonomie, ne participeront pas aux élections. En même temps, la paix est signée avec la Serbie le 28 février 1877. Le sultan inaugure les travaux du nouveau parlement le 19 mars 1877. Il comprend 71 députés musulmans, 44 chrétiens et 4 juifs. Les provinces européennes sont davantage représentées du fait de la crise. Mais le front européen reste uni et par le protocole de Londres, le 31 mars, on exhorte l'Empire à appliquer les réformes, ce que rejettent les Ottomans. L'opinion publique croit à l'invincibilité de l'armée ottomane et à la solidarité de tous les musulmans dans le monde. La guerre devient inévitable. Le 23 avril 1877, les Russes déclarent la guerre, parce qu'à l'époque, on déclarait encore la guerre, qui annonce, et en même temps, l'armée russe entre en Roumanie, qui proclame son indépendance, puis ensuite entre en guerre contre son ancienne puissance dominatrice, donc. Alors, Disraeli envoie comme ambassadeur à Constantinople son homme de confiance, Sir Henry Layard, qui est un personnage qui est une de ces très grandes personnalités de l'Angleterre victorienne. On a déjà vu un certain nombre, les Burton, Palgrave, etc., les Baker. Donc, Layard, c'est un peu dans le même genre. Il est né en 1817 à Paris, après une enfance européenne en France, Suisse, Italie et Grande-Bretagne. Il s'est lancé en 1839 dans un grand voyage oriental dont le but aurait été Ceylan, Sri Lanka. Mais en fait, il s'est arrêté à Constantinople en 1842, où il est entré au service de l'ambassade britannique. Et sous le patronage de l'ambassade, il entreprend les fouilles de Ninive en 1845 qui vont le rendre universellement célèbre puisque c'est lui qui découvre donc les grandes antiquités assyriennes en même temps que le consul de France Botta fait la même chose du côté français. Dans les années 1850 et 1860, Layard est parlementaire libéral et plusieurs fois sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. En 1869, il est revenu à la carrière diplomatique comme ambassadeur en Espagne. C'est donc un spécialiste des affaires orientales, persuadé que la survie de l'Empire ottoman est indispensable au maintien de l'Empire britannique. Il a plutôt une vue favorable des musulmans, mais il est bien sûr que pour lui, avant tout, ce qui compte, c'est la défense des intérêts britanniques. Et en fait, son projet est de réorganiser l'Empire ottoman dans un but favorable aux intérêts britanniques. Donc, on a la pire des situations possibles pour les Ottomans. Des finances en situation de quasi-banqueroute, aucune grande puissance n'apportant un soutien à l'Empire. Bismarck joue sur l'alliance des trois empereurs pour assurer la position de l'Allemagne en conciliant les ambitions des deux autres empires. La France est dans son recueillement défensif. La Grande-Bretagne hésite à savoir s'il faut encore assurer la barrière ottomane ou préparer une nouvelle ligne de défense de la route des Indes qui passerait par l'acquisition d'une série de positions stratégiques destinées à arrêter l'expansion russe. puisqu'on ne peut pas porter secours à l'Empire, il faut préparer une solution de repli, un containment de l'expansion russe en prenant un certain nombre de positions territoriales sur la route des Alpes. On n'est plus à l'époque des auberges de Palmerston que j'ai décrit dans les séances précédentes. Disraeli, qui a toujours un penchant pour l'Orient, est partisan du soutien aux Ottomans, mais ses ministres, en particulier Lord Salisbury, sont très hostiles au maintien de l'Empire, au moins en Europe. En revanche, il y a une sorte de sursaut national dans l'Empire ottoman, au moins dans les provinces musulmanes, balkaniques, qui ne veut plus céder aux demandes européennes. Dans les provinces arabes, les événements balkaniques ont créé un climat de tension confessionnelle, d'autant plus que les réformes annoncées concernaient les non-musulmans de tout l'Empire, parce qu'on ne parlait pas seulement des musulmans, des chrétiens des Balkans, mais la vigilance des autorités et des consuls a permis d'éviter des violences. Selon les rapports des consuls, l'avènement de Mourad V puis de Abdulhamid ont été plutôt bien accueillis. La mobilisation ottomane qui touche la population masculine musulmane s'est bien passée, tel que le montre par exemple ce témoignage du consul de France à Jérusalem. L'autorité militaire vient de recevoir l'ordre de diriger les réservistes actuellement réunis à Jérusalem sur Jaffa, où un transport de l'État les embarquera incessamment pour la Turquie d'Europe. Il ne reste plus guère dans le pays d'hommes en état de porter les armes. Dans tel village de 300 âmes, on compte plus de 50 hommes sous les drapeaux. Il n'est que juste de dire cependant que la population musulmane supporte ces charges écrasantes avec un admirable esprit d'abnégation et de dévouement. Les troupes arabes servent de façon distincte dans le 5e corps d'armée dit d'Arabistan. Elles conserveront leur identité durant tout le conflit. Cela démontre à la fois la force de la reprise en main des provinces syriennes après 1860, mais aussi le fait que ces unités militaires sont définies comme des unités arabes et non pas turques. La principale préoccupation est le peu de troupes restées sur place alors qu'il y a toujours le danger d'un soulèvement bédouin ou d'une région de l'intérieur traditionnellement insoumise, comme par exemple la montagne des Druzes en Syrie. La procédure de désignation des députés par les conseils administratifs et la nécessité de connaître l'Ottoman limitent le choix des députés ou représentants des grandes familles de notables, chrétiennes ou musulmanes. Alors, je vous laisse dans cette angoisse terrible de la guerre et nous reprenons dans 5 minutes.